Amis Potonneaux, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro dont refait le mastre. On refait le mastre, l'émission radio de Poteau Carré. On sent tous la pression monter et on a une équipe qui est au complet ce soir, une team de grande qualité. Alors, avec moi donc pour animer cette émission ce soir, il y a Verivel, l'homme de la technique, qui va être chargé plus précisément ce soir de relayer vos commentaires sur YouTube et sur le forum. Salut Verivel.
Salut et salut à tous. Et donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, histoire que je ne sois pas au chômage technique ce soir. Voilà.
Il y a également un habitué, le seul invité plus riche qu'Alexandre Bompard, c'est Parhasard. Salut Parhasard.
Ouais, d'ailleurs, je vais faire une offre de rachat du club.
Voilà.
Salut les matchs.
Dissident parmi nous, fidèle dissident, salut dissident, alias le doc.
Salut Osvaldo, salut à tous.
Et Pat 42, qui est un ultra historique du forum online et Poteau Carré. Salut Pat.
Salut Osvaldo, bonjour à tous.
Très actif sur X, anciennement Twitter également. Alors on va voir différents points ce soir. On va parler un petit peu quand même des quatre dernières rencontres et plus précisément de la semaine avec trois victoires. On parlera un petit peu de la gestion de l'effectif par Olivier Dalloglio, du rôle d'Anthony Briançon qui est en train de s'affirmer comme un vrai leader, je trouve, en tous les cas. On va parler un petit peu de j'ai intitulé ça une équipe digne de son public. On a tellement eu l'habitude de réclamer une équipe digne de son public, le public qui est exceptionnel en ce moment. Eh bien, on va voir si c'est le cas. Et puis, évidemment, bon, on va se projeter un petit peu, regarder les perspectives de montée, comparer les calendriers qui nous intéressent le plus, le nôtre et celui d'Angers. Et puis, on se posera en guise d'ouverture à la fin la question quand même de savoir si on monte en Ligue 1. C'est pour quoi faire? Voilà, qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors, avant ça, j'avais prévu un petit préambule, mais il y a quelqu'un, tel un CRS en Macronie, piétinant la liberté d'expression, qui m'a menacé. Et donc, j'ai été obligé de renoncer au préambule. On va attaquer le premier point tout de suite, tant pis. Et donc, je ne dirai pas qu'en mars 2023, Parhasard prétendait que Gauthier Larsonneur n'était pas meilleur que Mathieu Dreyer. Ceci n'étant pas dit, donc, puisque je n'en avais pas la possibilité, menacé que j'ai été, on va rapidement commencer avec Ajaccio. Avec ce match très étrange, des Verts pas au top et surtout un arbitrage cataclysmique. On commence avec toi, dissident. Cette rencontre à Ajaccio, comment tu l'as vécue et comment tu l'as sur le coup et puis avec un peu de recul, tu vois ça comme une vraie défaite? Ou tu mets plutôt sur le dos de la performance de, c'est le gars, je crois, l'arbitre ce soir-là, de l'arbitre ce revers en terre corse.
Oui, c'est pas le match le plus marrant que tu me demandes de commenter. Alors effectivement, on sera obligé de parler de l'arbitre, mais en premier lieu, je voudrais quand même rappeler que ce jour-là, Ajaccio n'a pas fait une performance mémorable. Et notamment, offensivement, on a été vraiment absent. Et je voudrais insister sur ce point, avant tout parce que la situation va se reproduire pas plus tard que samedi à Guingamp. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé au coup d'envoi sans Sissoko ni Wadji, qui était blessé. Et donc, on avait eu ce trio offensif Cardona, Mboukou, Cafaro, qui n'avait pas réussi à se trouver, pas vraiment réussi à être très très dangereux. Néanmoins, effectivement, on peut pas parler de ce match sans parler de l'arbitrage qui a été absolument horrible. On a tous en tête évidemment le penalty accordé en début de match sur cette main inexistante de Bouchoirie. On a tous en tête le carton rouge inexistant qui avait donné à Thomas Mkondu. Il y avait aussi la situation en deuxième mi-temps où Mboukou euh, et, et accroché dans la surface. Enfin, le défenseur d'Ajaccio lui tombe dessus sans toucher le ballon. Voilà, on sait qu'au foot.
Et avant ça, il y a une faute sur Mboukou qui n'est pas sifflée à la limite de la surface, qui aurait donné un excellent coup franc.
Tout à fait, tu as raison. Mais c'était en dehors de la surface. Voilà. Donc évidemment, voilà, moi, j'ai ces deux réflexions que je garde en tête. C'est-à-dire que, comme à Dunkerque, en fait, finalement, on perd sur une erreur d'arbitrage, si on veut résumer à ça. Mais comme à Dunkerque, on n'avait pas non plus fait une performance très, très brillante dans l'ensemble. Et j'espère que samedi à Guingamp, on aura une animation offensive qui sera meilleure, ou en tout cas, ils auront travaillé ils auront mieux travaillé l'animation offensive parce qu'on aura besoin d'être plus dangereux que ce qu'on a été à Ajaccio.
Alors, tu évoques un point qui me semble, moi, crucial, là, et qui va me faire bifurquer un petit peu sur notre conducteur d'emblée. Pat, je vais venir vers toi, parce que ce que dit Dissident, c'est que Ajaccio, c'est la seule rencontre qu'on a faite sans Ouadji ni Sissoko prenant l'axe. Et c'est Cardona qui a pris l'axe. Bon, moi, je n'y croyais pas avant le match, et puis j'ai eu raison de ne pas y croire, parce qu'il nous avait montré, lorsqu'il est arrivé, et depuis qu'il est bien plus performant sur un côté, même si ce n'est pas son poste de formation, aujourd'hui il est bien plus performant sur un côté que dans l'axe. Et on risque de retrouver cette situation à Guingamp. Donc Pat, est-ce que Cardona dans l'axe à Guingamp, tu y crois? Ou est-ce que tu penses qu'on va être obligé de revoir entièrement notre animation offensive parce qu'on ne voit pas qui pourrait jouer ce rôle si ce n'est pas Cardona?
C'est une question pas simple. Clairement, si on fait référence à ce match à Ajaccio, et plus précédemment aussi, peut-être les premiers matchs qu'a pu faire Cardona avec nous, c'est sûr que de se dire de le voir démarrer au centre à Guingamp, puisqu'on n'aura ni Sissoko ni Ouadji, c'est pas forcément la bonne nouvelle qu'on espérait. Maintenant, il a pu aussi nous montrer, notamment sur ce fameux match contre Bordeaux, qu'il est capable aussi, en jouant dans une position plus axiale, avec certes un peu plus de liberté qu'un pur avant-centre comme Sissoko, qu'il était capable aussi de se montrer dangereux en passant par cet axe. L'action qui amène son but d'égalisateur contre Bordeaux, il remonte le terrain dans l'axe, et plein axe là-dessus, et il montre qu'il a les qualités quand même, malgré tout, pour, dans certaines situations, pouvoir se montrer dangereux. Là où, effectivement, c'est plus inquiétant, c'est plutôt sur son impact physique à ce poste-là. Je suis pas tellement convaincu par l'apport qu'il peut avoir, notamment par rapport à un Sissoko sur le plan physique et point de fixation, et même un Ouadji dans un registre totalement différent, qui lui plutôt sur la vitesse et la profondeur. Ça va être intéressant quand même malgré tout de voir ce qu'il est capable de faire avec Sissoko et Mboukou, pas Sissoko, avec Mboukou et Cafaro autour de lui. J'avoue effectivement que j'aurais préféré avoir un de nos deux avant-centres présents. Il faudra faire sans, et je pense que le contexte faisant qu'on a besoin à tout prix d'aller chercher des points pour finir dans ces deux premiers, ça peut être aussi l'occasion pour lui de se sublimer et de sublimer ses partenaires. Donc j'ai envie d'y croire. Sur le papier, c'est pas forcément ce qui m'emballe le plus, mais j'ai envie d'y croire pour aller chercher ces trois points.
Bon, souhaitons que Olivier Dalloglio et les joueurs tirent des enseignements de ce match à Ajaccio et trouvent d'autres solutions à Guingamp. Moi, ce match à Guingamp, il me fait peur. On en reparlera en fin d'émission. Alors, après cette déconvenue à Ajaccio, moi, je craignais un petit peu qu'on reparte dans une série de loses. Et puis, on a vécu ce match à Bordeaux. Alors, j'ai eu la chance de le vivre en Coupe Nord, ce match contre Bordeaux. Voilà, moi j'étais au fond du trou, quoi. J'imaginais qu'on allait repartir, que notre saison était flinguée, qu'on allait repartir sur une série de 5 défaites, et puis il y a eu ce miracle. Et plus généralement, il y a eu une semaine, parfaite, hein, puisque 3 matchs, 3 victoires, parfaite dans les résultats, dans le jeu un peu moins. Par hasard, on en avait parlé, t'as dit on fait tout à l'énergie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette semaine à trois matchs et surtout, est-ce que tu penses qu'on peut refaire trois matchs à l'énergie, pour reprendre ton expression?
Bah, ce qui est sûr, c'est que les trois derniers matchs, effectivement, confirment cette impression que nous donnent les Verts, c'est-à-dire que très peu de marge dans le jeu, pas de prestations accomplies pendant 90 minutes. Et en fait, si on reprend chacun des trois matchs en question, on a l'impression que ça tourne bien, mais que chacun des trois matchs aurait pu se terminer par un nul. Ça n'aurait pas été, au vu de la physionomie, un scandale ni très surprenant. Donc et l'impression qui se dégage à chaque fois, c'est que les mecs s'arrachent, ce qui d'ailleurs, à mon avis, contribue à l'adhésion ultra spectaculaire du public depuis deux mois et demi. Parce qu'objectivement, les mecs s'arrachent, les mecs taclent comme des fous dans tous les sens. C'est super plaisant. Mais oui, ils sont à l'arrache, ils sont à l'énergie. Moi, j'ai tendance à penser que le fait qu'il ne reste plus que trois matchs et que maintenant, il y a une semaine entre chacun des trois matchs, laisse augurer du fait qu'on sera encore capable d'avoir cette énergie pendant les trois prochains matchs. En revanche, la petite inquiétude que j'ai, c'est que comme on a zéro marge, il ne faut pas que la réussite, peut-être un peu liée à ce surplus d'énergie ou d'envie, mais que la réussite qu'on a eue sur ces matchs-là nous fuit, parce que elle nous endort un peu cette série. Et ça, c'est mon. J'espère que Daloglio leur met bien sous le nez les insuffisances, malgré l'extrême plaisir qu'on peut prendre à célébrer des victoires devant 36 000 personnes, cette euphorie qui gagne tout le monde. Il faut que les mecs restent les pieds sur terre et se rendent compte que sans se donner à 120%, il n'y a pas de salut, parce que s'ils ne se donnent pas à 120%, il se produit ce qui s'est produit à Dunkerque ou à Ajaccio. Et ce qui aurait pu un peu se produire, même si les matchs étaient un peu moins pourris, mais ce qui, d'une certaine façon, aurait pu se produire à Grenoble, parce que le début de match était quand même tout aussi pourri que ceux qu'on a pu voir à Bastia ou à Ajaccio, même si les résultats étaient très différents. Donc, si on n'est pas à 120%, si on se dit, tiens, de toute façon, ça va passer, donc on ne se met pas la pression pour être dès le coup d'envoi à fond, peut-être qu'à un moment donné, ça va mal tourner. Et c'est vraiment ça qu'il faut éviter. Mais physiquement, je pense qu'on a les moyens. C'est plutôt dans la tête. Il faut que c'est sans doute compliqué, mais il faut que les mecs continuent à se mettre une pression de dingue, un peu comme ils se sont mis la pression contre Caen pour bien démarrer. Ça a été assez exemplaire, ce démarrage contre Caen, même si ça n'a pas duré. Mais voilà, il faut qu'on démarre de cette façon le match à Guingamp après-demain.
Oui, et le début de match à Grenoble, il était presque surréaliste, tant on a tout fait pour les mettre dans la rencontre et même les laisser ouvrir la marque. Verivel.
Oui, je veux relayer les réactions qui se passent sur le chat YouTube, parce qu'il y a les habitués hein, du genre Forésien 73, notamment Franck Follet aussi qui est là, Denis qui nous fait l'honneur d'assister à l'émission également et de participer donc sur le chat. Denis, comme Patrick, hein, c'est vraiment un ancien de chez les anciens, depuis le début, depuis ASS Online. Alors, Forésien, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que le problème à Ajaccio, lui, pour lui, c'est surtout l'absence de Mouefek au milieu, parce qu'il a été en arrière-droit et Monconduit sur le banc, et il a peur parce que Monconduit sera aussi absent samedi. Pour Denis, en fait, on a zéro marge et donc rien peut nous couler, hein, que ce soit de l'arbitrage, une malchance ou n'importe quoi. Et effectivement, Franck est d'accord avec lui, on n'a aucune marge et donc le moindre faux pas peut être fatal. Alors, il faut tenir bon. Voilà les réactions sur le chat.
Eh bien, merci à tout le monde. Je salue Denis, avec qui j'ai fait un déplacement à Rennes il y a un grand nombre d'années. Alors, dans cette équipe qui a montré de vraies vertus ces derniers temps, pour moi, il y a un joueur qui se révèle quasiment, qui est à son meilleur niveau, me semble-t-il, et qui s'affirme comme un leader. Dissident, je pense à Anthony Briançon, que j'ai trouvé très, très bon ces derniers temps, et j'ai trouvé que c'était une vraie locomotive pour le groupe. Est-ce que tu as eu le même sentiment ?
Ouais, je suis carrément d'accord. Et on a vraiment l'impression qu'il prend son pied là, dans cette ambiance-là qui entoure le club actuellement. C'est-à-dire que c'est vraiment des matchs pour lui à l'arrache. Il faut aller chercher les points avec les tripes. Et il est vraiment dans son jardin. Et alors moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai mon petit plaisir quotidien depuis pas mal de temps, c'est de me repasser les dernières minutes de Saint-Étienne-Bordeaux, où en fait, il crève l'écran un petit peu sur ce passage-là, avec ses retours, son retour incroyable au moment où l'Arseneur est dribblé, où il coupe la course de l'attaquant. Ensuite, quelques minutes plus tard, il sauve un ballon encore dans la surface en s'arrachant et puis après en haranguant le Kop Nord. Enfin, c'est vraiment fabuleux. Et du coup, ça pose vraiment un problème parce que actuellement, on a vraiment trois défenseurs centraux de très haut niveau. Et c'est pas facile, je pense, pour Dalloglio de choisir les deux qui débutent à chaque fois. Alors, pour l'instant, il a eu un petit peu de chance, entre guillemets, parce qu'à chaque fois, il y en avait un qui était suspendu, un qui était blessé. Bon, le choix était assez évident. Mais là, sur les trois derniers matchs, il va récupérer ses trois défenseurs centraux. Et je pense que pour lui, ça doit être assez compliqué de choisir la charnière, quoi. Mais en tout cas, ouais, pour Anthony Briançon, ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là et d'être aussi investi dans son rôle de capitaine. Et c'est le genre de joueur qu'on adore à Saint-Étienne de toute façon.
Alors, tu parles du fait qu'on a trois joueurs de niveau quasiment équivalent au poste de défenseur central. Je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord là-dessus. Et alors, on dit abondance de biens ne nuit pas. Alors, en foot, ça peut nuire quand l'état d'esprit n'est pas au rendez-vous et que certains font la tête. Et ça me permet de faire le lien un petit peu avec le point suivant, mais jusqu'à présent, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord avec ça, j'ai vraiment le sentiment que l'état d'esprit est bon et pour l'instant, je n'ai pas vu de joueur faisant la tête, peut-être Bouchouari, mais bon, il est vraiment devenu un joueur de complément, on en parlera un petit peu justement dans le point qui vient là, avec la gestion de l'effectif par Olivier Dalloglio, la gestion de la fatigue. Par hasard, en particulier, Olivier Dalloglio a fait pas mal tourner à Grenoble, mais il a tendance de temps en temps quand même à faire tourner. Par exemple, Thomas Monconduit qui a été très très bon. Je crois que c'est Denis qui en parlait sur le chat YouTube. Était pas titulaire à Ajaccio. Moi, j'avais été déçu de ça. Comment tu juges cette gestion pour l'instant ?
Plutôt bonne. J'ai une petite réserve, mais globalement bonne parce que elle a le mérite, cette gestion, de manifestement embarquer les 15-16 sur qui il souhaite s'appuyer, qui effectivement sont dans l'esprit, avec quand même souvent des entrants qui s'avèrent décisifs, ou en tout cas qui s'avèrent au niveau des mecs qui remplacent. Donc de ce point de vue, elle est bonne. Notamment, mon conduit, c'est vrai qu'il est assez convaincant depuis quelques temps, mais moi je trouve que Tardieu est, par sa science du jeu, du placement, est super utile dans un rôle de 6, de libéraux du milieu. Donc voilà, on a des... Là-dessus, il est arrivé, a priori, à embarquer tout le monde et à faire comprendre à tout le monde que, quel que soit le temps de jeu, chacun en aurait un peu et qu'il fallait tout donner, que c'était pour le bien du collectif et que ça rejaillirait sur tout le monde. C'était aussi pour le bien de chacun individuellement. Mon petit bémol, mais... En même temps, je pense que c'est un peu compliqué de faire autrement parce qu'on a pas mal de monde. C'est que je regrette un peu qu'on n'ait pas eu de temps en temps un peu plus de temps de jeu pour certains jeunes qui, bon, je pense à Rivera notamment, mais qui ont un peu été mis sur la touche, quoi. Ou qui sont vraiment les dernières, enfin, qui sont la dernière roue du carrosse dans chacune des lignes. Les jeunes qui pourraient à un moment donné, qu'on aurait pu voir à un moment donné un petit peu plus, bah on les voit vraiment s'il y a une épidémie, quoi, et pas plus. Et alors, je ne sais plus sur quel match, mais il me semble que devant notamment, je me suis dit à un moment donné, bah on n'a personne sur le banc, pourquoi il n'a pas pris Rivera? Si on a un blessé, on est dans la merde. Et ça sera intéressant de voir ce qu'il fait ce week-end, mais voilà, on a une situation où on peut avoir aussi, notamment dans l'idée de peut-être d'avoir quelqu'un d'un peu costaud devant, l'idée, je ne sais pas si parmi nos réservistes, il y a un mec qui pourrait jouer soit le rôle de Wadji, soit le rôle de Sissoko, mais voilà, il prend pas de pari comme ça, en fait. Il a un côté assez conservateur, il fait tourner, mais au sein des 15-16, qui forment son noyau, et pour certains, la porte semble quand même définitivement fermée. Mais c'est un léger bémol, parce que les faits lui donnent raison, et il n'y a pas tant de jeunes que ça qu'on aurait pu, à un moment donné, imaginer voir grappiller un peu plus de temps.
Non, effectivement, bon, c'est un point dont on avait parlé, mais c'est vrai que peut-être on manque un peu de ressources de ce point de vue-là. Alors, avec les absences de Wadji et Sissoko, c'est vrai qu'il nous reste beaucoup... Cafaro et Cardona. Pat, est-ce que tu penses que ça serait tout à fait pertinent de prendre par exemple Maxence Rivera dans le groupe pour avoir quand même une solution, soit pour apporter du sang frais en fin de rencontre, soit pour pallier une blessure?
Ça pourrait avoir du sens. Maintenant, j'ai quand même l'impression que dans l'esprit d'Olivier Dalloglio, ce joueur-là, c'est devenu un petit peu Benjamin Bouchouari. C'est vrai que c'est plutôt lui qui va avoir tendance à rentrer et prendre ce poste d'ailier. Alors, selon les circonstances, soit à gauche, soit à droite, ça peut dépendre, mais c'est surtout côté gauche. Je suis pas certain que dans son esprit, maintenant qu'il a constitué son groupe, comme le disait par hasard son noyau dur, qu'il en change ne serait-ce qu'un seul homme, sauf s'il est vraiment contraint et obligé. Donc pour moi, s'il doit faire appel à quelqu'un d'autre de ce cercle-là, donc en premier lieu Rivera, ce sera seulement pour remplacer numériquement la personne, le joueur qui sera absent de ce groupe-là. Il y a très très peu de chances, voire quasiment aucune chance de le voir jouer. Je pense que ce qui a été demandé à Olivier Dalloglio, c'était vraiment déjà de remobiliser les forces vives, les cadres et les joueurs qui jouaient vraiment très très en dessous de leur niveau. Et de ce fait, en tirant le meilleur et en retrouvant des résultats et en allant chercher petit à petit les premières places au classement, bien, il devenait évident que les jeunes, malheureusement, se trouvaient exclus de ce projet, tout simplement parce que dans l'heure où nous sommes actuellement, on a besoin de joueurs qui sont capables justement de résister à la pression, d'y faire face, de se remobiliser quand ça va pas bien, en gros de faire preuve de morale et de faire jouer leur expérience. C'est les deux choses qui manquent à nos jeunes joueurs, qui ont certainement d'autres qualités et peut-être même des qualités intrinsèques parfois meilleures que certains. Mais là, on a besoin d'hommes. Et je pense que c'est pour cela que, pour moi, on ne reverra pas Rivera avant la fin, sauf si vraiment Olivier Dalloglio y est contraint. Et ça voudrait dire du coup que ni Mboukou, ni Cafaro, ni Cardona éventuellement seraient là, quoi. Donc je préfère pas l'envisager de mon côté.
Non, on n'a pas envie de l'envisager non plus. Alors, on va dire un petit mot sur Benjamin Bouchouari que tu as évoqué. Mais d'abord, intervention de Verivel.
Oui, une intervention parce que Denis, en fait, comme on a trois bons défenseurs centraux, Denis propose du coup de rejouer en 3-5-2. Alors, merci Denis pour ta contribution. Hein, c'est sympa, mais non merci. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Oui, alors pour ceux qui ne suivent pas, Verivel a une totale aversion pour ce système que moi je trouve à titre personnel très intéressant, mais qui est difficile à maîtriser, et en particulier parce qu'il faut avoir des joueurs de couloir assez exceptionnels pour pouvoir jouer dans ce système. Voilà. Alors, 1-0 pour l'Atalanta à Marseille, mais cela ne nous regarde pas. Alors, Benjamin Bouchouari, bon, c'est vrai que Pat nous l'a rappelé, c'est plus Benjamin Bouchouari qui joue le rôle d'entrant que Maxence Rivera. Est-ce que ça, c'est dissident? Est-ce que c'est pas un peu contestable, ça? Parce que, bon, mon sentiment à moi, c'est que Bouchouari est extrêmement décevant lorsqu'il rentre. Est-ce que ça ne devrait pas être l'occasion, peut-être, de donner un peu plus de temps de jeu à Maxence Rivera? Est-ce que tu as la même analyse de la situation?
Oui, alors je dirais que Maxence Rivera, les rares fois où il est rentré, il n'a pas non plus été exceptionnel. Je trouve que pour Bouchouari, c'est difficile parce qu'en fait, il rentre à un poste qui n'est pas du tout le sien, voire même il est titularisé à un poste qui n'est pas du tout le sien, comme ça a été le cas à Grenoble, par exemple. Il fait contre mauvaise fortune bon cœur, j'ai envie de dire. Et moi, je trouve qu'il a quand même une attitude qui est plutôt positive. Il essaye, mais j'ai l'impression que bah, pour le coup, lui, il passe un petit peu à côté de sa saison et que son avenir s'annonce un peu compliqué chez nous. Aujourd'hui, Benjamin Bouchouari, il est très, très, très éloigné du 11 de départ, hein. Je pense qu'il est vraiment dans les derniers remplaçants et il rentre vraiment, vraiment en fin de match. Il n'a pas été décisif cette saison et c'est compliqué. Enfin, j'ai pas grand-chose de plus à dire. C'est une grosse déception, mais pour moi, il m'avait déjà déçu avant d'aller au Lyon, en fait. Hein. Déjà en début de saison, quand il jouait à son vrai poste, je trouve qu'il avait été déjà très décevant. Et pour moi, c'est pas tellement une surprise qu'il soit peu à peu sorti du groupe.
Oui, alors moi, j'ai la même analyse que toi. Et à tous les niveaux, c'est-à-dire, tout à l'heure, je disais que peut-être il faisait pas preuve du meilleur état d'esprit, mais ça s'est amélioré. Et quand tu dis il fait contre mauvaise fortune bon cœur, c'est exactement ça. Maintenant, il rentre et même dans son attitude, l'expression de son visage, on n'est plus dans cette situation où il montrait du mécontentement. Donc, c'est à mettre à son crédit. Il joue à un poste qui n'est pas le sien. C'est pas tout à fait évident. Il n'empêche que, bon, à titre personnel, alors Dalloglio est mieux placé que moi, mais je ne vois pas ce qu'il a de plus que Rivera, peut-être que Rivera n'est pas très bon à l'entraînement en ce moment, pour jouer ce rôle d'entrant. Par hasard, tu voulais ajouter quelque chose?
Mais juste un truc qui me surprend beaucoup dans ce qu'a dit Dissident, c'est que moi je considère que ça a été le meilleur Stéphanois de nos deux premiers mois de championnat, qui n'ont pas été nos meilleurs mois de la saison, je vous l'accorde. Mais vraiment, j'avais l'impression qu'il était en train de prendre, peut-être parce que Crasso était parti, un peu prendre de l'ampleur au milieu. Il lui manquait juste un peu de stats, mais il s'en rapprochait avec une ou deux frappes sur les poteaux. Et je l'avais trouvé très bon en début de saison. Voilà, je suis assez surpris de votre impression. On l'a perdu en route, clairement. Avant même que Dalloglio arrive, on avait commencé à le perdre. Mais on a bien continué à le perdre là, je suis d'accord avec vous en revanche. Mais sur les deux premiers mois de la saison, pour moi, il était très bien.
Alors, je n'ai pas ce souvenir, je ne veux pas dire que c'est faux, mais je n'ai pas ce souvenir. Moi, j'ai le souvenir d'un Benjamin Bouchouari décevant, mais peut-être qu'en début de saison, ce n'était pas le cas. Avant d'attaquer la suite, Pat, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, pour revenir toujours sur le cas Bouchouari, je partage en partie l'avis de par hasard. Effectivement, c'est vrai que dans notre première partie de saison, il était quand même un des seuls qui parvenait à prendre le ballon, à le remonter et à essayer de lui donner un peu de vie. Ce qui donnait quand même l'impression qu'il était un peu au-dessus des autres. Néanmoins, là où je rejoins un peu ce que tu disais aussi, Osvaldo, c'est que pour moi, il avait beaucoup de déchets dans son jeu à ce moment-là aussi. Et s'il a eu quelques passages intéressants où il aurait effectivement pu marquer, j'ai quand même le souvenir de quelques pertes de balles quand même assez préjudiciables et assez, malheureusement pour lui, assez régulières. Qui ont coûté quand même, qui auraient pu coûter cher à l'époque où on enchaînait notre première série positive, et qui ont fini par coûter très cher dans la deuxième partie de la première moitié de saison, où là par contre c'était la cata un peu pour tout le monde. Donc je pense aussi que de ce fait, ça rejoint un peu ce que je disais au départ, l'inexpérience, l'inexpérience qu'il peut avoir lui, même si elle est un peu plus importante que nos jeunes, joue contre lui à une époque où on a besoin vraiment des mecs vraiment à fond, et même si ses entrées sont intéressantes là, ces derniers temps, ça reste quand même insuffisant pour être un vrai titulaire.
Ouais, bon, moi je ne les trouve pas spécialement intéressantes, mais bon, l'essentiel, je dirais, c'est qu'il puisse s'intégrer dans une rotation et permettre au titulaire de souffler à certains moments sans que ça soit préjudiciable pour le résultat final. Voilà. Alors, on a terminé avec ce retour sur les quatre dernières rencontres. On attaque la deuxième partie de l'émission que j'ai intitulée « Une équipe digne de son public ». Alors, on l'a, alors point d'interrogation ou pas, je ne sais pas, on l'a réclamé, on veut une équipe digne de son public. Donc, on a deux choses à évoquer, l'équipe. Et puis le public, qui lui est exceptionnel, là, c'est incroyable. On va reparler à cette occasion de ce qu'on a vécu contre Bordeaux. Alors, Pat, je reviens vers toi tout de suite parce qu'on était probablement les deux les plus virulents dans la période noire que nous avons vécue cette saison, et puis même la saison d'avant, et puis même celle encore avant. Enfin bref, je n'avais pas de mots suffisamment durs pour qualifier nos joueurs qui étaient en mode larve. Et on est passé du mode larve au mode guerrier, transformation stupéfiante. Es-tu, comme moi, stupéfait par cette transformation? Et est-ce que tu arrives à lui donner un peu de sens?
Alors, stupéfait, oui. Ce serait quand même étonnant de passer à côté de cette révolution, ouais, on peut le dire comme ça. Quand on se rappelle cette première partie de saison où, certes, on a eu quelques moments où on avait l'impression que l'équipe se battait quand même. Hein. Il y a ce match à Caen où elle s'est arrachée pour gagner les points. Il y a eu ce match contre Angers aussi en première partie où on a vraiment fait face par rapport à une belle équipe. Mais bon, après, il y a tellement eu de passages où on a l'impression que l'équipe jouait à 50% de ses capacités, que les joueurs ne faisaient pas les efforts, tant offensifs que défensifs, et qu'il ne se passait rien, en fait. Il n'y avait pas de vie, il n'y avait rien. Et depuis l'arrivée d'Olivier Dalloglio, là, je sais pas, si, je pense qu'il y a un effet Olivier Dalloglio, évidemment, mais je pense aussi que cet effet, les joueurs en ont pris conscience eux-mêmes. On se rappelle tous de la réunion qu'ils ont eue ensemble après justement la défaite catastrophique à Dunkerque. Et je pense que c'est à partir de là qu'on a senti un vrai changement d'attitude de la part des joueurs et qu'ils se sont dit, bah, finalement, les mecs, ce que nous disent les supporters depuis des mois, bah, c'est vrai. On ne fait pas les efforts, on ne fait pas ce qu'il faut. Et il serait peut-être temps qu'on leur montre que finalement, on en est capable. Et que si on se met à jouer, bah, peut-être qu'il peut se passer quelque chose de bien pour nous. Et alors, je ne sais pas si c'est vraiment ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est ce que nous, on a vu. Parce que la différence, elle est flagrante. Voir des mecs s'arracher comme ils le font là, depuis plusieurs matchs, d'aller gagner des matchs dans les arrêts de jeu en étant mené juste avant, enfin, moi, c'est des choses... Je me rappelais plus avoir vécu ça depuis longtemps, quoi. Donc, et puis le public leur rend bien, quoi. Moi qui suis abonné Cop Nord et qui vis au match comme toi dans ce Cop, c'est juste incroyable ce qu'on est en train de vivre ces derniers matchs. Donc, c'est une vraie transfiguration, je vais le dire comme ça, parce que c'est, et tant mieux pour nous, ça nous permet de vivre une fin de saison géniale, pourvu que ça dure jusqu'au bout. Mais au final, c'est ce qu'on aurait aimé voir, mais depuis le début de saison, quoi, d'avoir cette équipe qui se bouge comme elle le fait maintenant. Mais on serait même pas là à parler de possible montée, elle serait déjà acquise depuis longtemps. ce qu'elle nous montre qu'elle peut le faire.
On aurait 105 points là si on avait joué comme ça.
Peut-être.
Alors, tu parlais de fin de saison extraordinaire ou exceptionnelle. Dissident à l'intérieur de cette fin de saison, tu en as un petit peu parlé, je reviens vers toi pour ça. Il y a eu le match contre Bordeaux. Est-ce que si je dis qu'on a le droit de le mettre dans le panthéon des matchs qu'on a vécu de notre vivant, est-ce que c'est exagéré pour toi ou est-ce que tu es d'accord avec ça, hein? On rappelle quand même cette fin de match exceptionnelle avec des buts aux 91e et 94e minutes en infériorité numérique pour battre Bordeaux.
Bah écoute, oui, parce que spontanément, moi, quand après le match contre Bordeaux, très rapidement, il y a un autre match qui m'est revenu en tête, c'est la victoire contre Châteauroux. Quand on va gagner ce titre de Ligue 2 dans les dernières minutes avec Bridonneau qui fait sa reprise venue de nulle part, c'est rare ces matchs où on sent que il se passe quelque chose d'un peu surnaturel dans notre stade, quoi, où le Il y a une prise de il y a une connexion entre le public et les joueurs et ce qui est des joueurs qui arrivent à dépasser un peu tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont fait jusqu'avant pour aller chercher un résultat extraordinaire. Il y a une partie de magie là-dedans et ça on sait que Geoffroy Guichard en est capable, mais ça arrive quand même pas très souvent. Et donc oui, forcément, quand ça arrive, on s'en souvient et on s'en souvient longtemps. Moi, j'ai eu la chance d'être présent dans la tribune nord pour le match contre Châteauroux. Je n'étais pas présent contre Bordeaux, mais le sentiment, on sent même à travers l'écran, on sent quand même qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et le souvenir vivace, et comme je te disais, oui, moi, j'adore revoir les images là depuis... Ça fait un petit moment déjà que le match a eu lieu. C'est Saint-Étienne, voilà. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer à longueur d'année à mes collègues cannais, parce que depuis quelques années, je vis à Caen, qui est un club très, très populaire et très sympa de Ligue 2, où il y a des supporters, mais ça n'a pas la dimension de Saint-Étienne. Et quand je leur explique qu'à Saint-Étienne, bah, Quand tout va mal, c'est très vite la catastrophe et il y a des cercles vicieux qui se mettent en route. Et qu'au contraire, quand tout va bien, quand il se passe des choses comme il se passe là depuis quelques semaines, et ben on sent que le public embraye et que les joueurs vont chercher des forces qui ne pensaient même pas avoir. Ça, c'est vraiment magnifique et c'est vraiment là qu'on sent qu'on est un club de foot à part, quoi. Voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir surfer sur cette dynamique le plus longtemps possible. Il reste trois matchs. J'espère que ça tiendra jusqu'au bout.
Il y a une expression sur les réseaux sociaux qui « personne n'est comme nous hein ». Il dit « personne n'est comme nous ». Eh bien, c'est, même si c'est peut-être un peu exagéré, il y a du vrai là-dedans. Et effectivement, on est un club à part. Alors moi, j'ai beaucoup de chance parce que malheureusement, je n'habite pas Saint-Étienne, mais j'ai vu contre Châteauroux, j'étais en Cop Nord, et contre Bordeaux, j'étais en Cop Nord. Et je suis d'accord avec toi, hein, y a quelque chose de remarquable. Ça fait partie de ces matchs où on a le sentiment que le public a joué un vrai rôle dans la victoire. Et je crois qu'il y a très peu de stades en France où c'est possible. Par hasard, est-ce que tu as ressenti les mêmes vibrations? Est-ce que tu partages l'avis du capot des Magic qui, à un quart d'heure de la fin, a pris le temps d'expliquer que là, on allait les faire gagner, là, que c'était dur, qu'ils avaient du mal, mais qu'on allait les faire gagner, qu'il ne fallait rien lâcher. Et puis, le fait est que, bah, qu'il a raison, qu'on a fini par gagner, que je crois qu'on a joué notre rôle.
Je partage à moitié l'avis, parce qu'en fait, autant j'ai explosé, j'étais pas au stade, déjà, précision. C'est un des rares que j'ai raté récemment, mais j'étais loin de Saint-Étienne. Donc je l'ai vu sur un PC, ce qui change un peu la donne. Et en fait, la différence, vous comparez avec Châteauroux, autant le dénouement est identique, mais pendant 90 minutes, je me suis un peu lamenté. Et franchement, la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qu'on voyait arriver de dénouement, c'est évidemment Châteauroux. pour ceux qui étaient au stade, on se disait que ça allait finir par passer. Alors que contre Bordeaux, moi, je sentais gros comme une maison, vu la désorganisation de l'équipe, qu'on allait s'en prendre un deuxième, et que ça tournait mal, quoi. L'expulsion de Nadé, qui est quand même idiote.
Je dis tout de suite que je suis d'accord avec toi sur cette différence entre les deux matchs. Hein. L'atmosphère était assez comparable, mais par contre, c'est beaucoup plus inattendu contre Bordeaux. Je suis d'accord avec toi.
Ah, enfin, moi, j'étais comme un fou à cause de ça. Enfin, grâce à ça, en me disant, mais c'est pas possible. C'est en me disant, mais il n'y a que le foot pour nous faire des trucs pareils. C'est-à-dire que j'étais tellement convaincu que ça allait finir à 3-0, qu'on allait s'en prendre un deuxième, au moins, peut-être pas un troisième, mais au moins un deuxième, parce que Bordeaux, à un moment donné, s'est mis à jouer à la passe à 10, ils ont touché un peu un ballon, puis encore une fois, l'équipe était très désorganisée, était vraiment sur un fil, et puis ce miracle prodigieux, j'ai eu du mal à m'endormir grâce à ça, quoi. Enfin, à cause et grâce à ce dénouement, parce que c'était vraiment fabuleux. Mais voilà, c'est la différence que je ferais entre les deux.
Ouais, alors moi, je dis juste un truc, je suis tellement d'accord avec toi que je pense que j'ai fait une dépression de 30 minutes. C'est-à-dire qu'entre la 60e et la 90e, je pense que j'ai fait une dépression assez profonde. Et j'ai réussi à m'en sortir grâce à Irvine Cardona, et je le remercie pour ça.
Ouais, honnêtement, c'est un peu surréaliste, en fait. C'est-à-dire que nous, on peut pas être considéré comme objectif, mais je pense que quelqu'un avec un regard extérieur qui aurait vu ce match, qui aurait été ni bordelais ni stéphanois, je pense qu'après l'expulsion de Nadé, il dit bon, bah, c'est bon, c'est plié, quoi. Et voyant notamment, encore une fois, y compris sur notre égalisation, j'insiste là-dessus, mais je sais pas si vous avez forcément décidé en tout cas de l'avoir, vu qu'il a revu 10 fois à la fin du match, mais l'action de l'égalisation, quand Wadji contrôle le ballon, il donne le ballon à, en fait, 3 Stéphanois qui sont collés les uns aux autres, alors qu'on est quand même à 10 contre 11.
C'est le 2-1, ça. Wadji, c'est le 2-1.
Oui, pardon, Wadji, c'est le 2-1. Et donc, c'est Benteg, effectivement, tu as raison, c'est 2-1, et c'est Benteg qui monte et qui finit par centrer. Mais vraiment, c'est le symbole du bordel. Alors, peut-être que le public a joué un rôle dans ce bordel aussi, c'est-à-dire que c'est l'agnac, l'énergie, la folie qui l'emporte sur toute considération tactique, tout truc. En fait, la logique disparaît un peu. Et c'est en ça, effectivement, que ce match, il est fabuleux. C'est qu'il n'y a plus de raison. Il n'y a que le feu dans le stade et l'envie d'une équipe de pas laisser le scénario prévisible se dérouler comme ça, et de réagir, parce que un peu une pulsion de survie, quoi, un peu comme un ouais une, bah non je veux pas je, on veut pas se laisser mourir, on n'est pas arrivé jusque là pour foirer totalement notre saison. Peut-être que s'il y avait eu que 15 000 personnes ou 20 000, ils auraient pas eu cette folie d'aller claquer deux buts. Donc en salle, le public a pu jouer son rôle, mais effectivement, c'est de l'ordre du miracle, ce match.
Oui, c'est à la fois miraculeux et à la fois, dans l'énergie déployée, assez mérité. Et moi, je pense que l'hypothèse que tu as émise est juste. C'est-à-dire que même si l'équipe était un peu désorganisée, le public a été capable de donner un supplément de force, un supplément d'énergie. Et c'est ça qui nous a permis de revenir alors que tout était contre nous à ce moment-là. Et je voudrais ajouter une chose sur l'égalisation. Je voudrais quand même saluer, et c'est peut-être dû justement à cette énergie supplémentaire donnée par le public, je voudrais saluer le travail au départ de l'action de Thomas Monconduit, qui avait été replacé en défense centrale après l'expulsion de Nadé, et qui fait un travail exceptionnel de conservation de ballon, d'élimination, qui transperce une ligne balle au pied avant de donner le ballon à Cardona. Alors évidemment, le plus difficile derrière, c'est Cardona qui le fait, mais ce que fait Monconduit au départ, c'est aussi exceptionnel que, que ce que fait Cardona ensuite. Et c'est l'occasion de redire que j'apprécie beaucoup ce joueur, je trouve qu'il a vraiment beaucoup de talent et je suis toujours content quand il est sur le terrain. Alors, c'est normal de revenir sur ce match de Bordeaux qui, avec une ambiance hors norme dans Geoffroy Guichard, je crois que c'est inoubliable quand on vit des matchs comme ça.
Surtout, je voudrais qu'on... juste un dernier truc, le deuxième but, la beauté du deuxième but, c'est, on n'en a pas parlé, mais...
Alors, depuis le Cop Nord, Pat était en Cop Nord aussi, c'était dans ce scénario surréaliste, c'était un moment surréaliste dans le surréaliste, parce que à aucun moment je ne vois le ballon au fond. C'est-à-dire que quand je le vois lober, je me dis, mais il est fou, on a une occasion exceptionnelle, il faut mettre une mine, et il essaye de faire un ballon piqué débile. À aucun moment je ne le vois cadrer. Après je vois un mec qui met une tête, je me dis tiens, finalement il était cadré, le mec sort la balle sur la ligne, c'est pas de bol. Et puis après je vois le filet bouger, je comprends qu'en fait le mec, la tête il l'a fait et puis le ballon est au fond. Et c'est absolument incroyable, et tout ça se passe au ralenti. Pat, juste un petit mot là-dessus, est-ce que tu te reconnais dans ce que je viens de décrire? Est-ce que tu as vécu les choses de la même manière?
Alors, je ne me suis pas dit qu'il avait fait un lob de débile, pour reprendre tes mots, mais effectivement, moi, je me souviens vraiment de ce moment suspendu, en fait, parce qu'en fait, ça faisait déjà 5 minutes que c'était le bordel dans le COP, hein, on peut le dire comme ça, hein, on gueulait comme pas possible, on les poussait, mais c'était totalement déraisonné, même, c'était surréaliste, en fait, on les poussait à faire des choses en sachant très bien que s'ils le faisaient, ils avaient une chance presque sur une, de se prendre un compte, de se prendre un but derrière. On se dit, de toute façon, il faut y aller, de toute façon, il faut aller marquer, même si on est qu'à 10, et ben, il faut y aller, il faut tenter, puisque de toute manière, si on perd, c'est fini. Donc, voilà. Et effectivement, ce que tu racontes sur ce deuxième but, moi, ce que je retiens surtout, c'est ce moment suspendu où le ballon arrive dans les pieds de Cardona, et là, tout le monde retient son souffle. Et on retient tous notre souffle.
Truc incroyable, c'est le silence.
C'est ça, c'est exactement
ça. Le silence dans le stade au moment du lob. Tout le temps où le ballon est en l'air, on n'entend pas un bruit.
Et c'est le mouvement du filet, comme tu l'as très bien dit, parce que nous, en plus, on était vraiment à l'autre bout, donc on voit vraiment l'action. On ne sait même pas si elle est passée au-dessus, si elle est rentrée, s'il y a quoi que ce soit. On voit juste un joueur qui la touche, et puis le filet qui bouge au loin, là. Et puis c'est là qu'on explose tous, et là c'était devenu... c'était totalement irrationnel. Là, ce qui s'est passé après, c'était de la folie furieuse. Mais effectivement, c'était un grand moment, personnellement, je n'en avais pas vécu depuis très très longtemps à Geoffroy.
Ouais, c'était comme tu dis, c'était ce qui s'est passé ensuite. C'était à la fois, il n'y a rien de meilleur, et puis c'était aussi du grand n'importe quoi. Enfin bon, c'est le bonheur des travées de Geoffroy. Alors, on a terminé avec le deuxième point, ou presque. Non, je voulais ajouter un truc quand même sur le public. À l'extérieur aussi. On disait, c'est dissident qui disait on est un club à part. Mais alors, dans Geoffroy Guichard, c'est extraordinaire, et il suffit d'aller dans d'autres stades pour s'en rendre compte. Mais ce qui se passe à l'extérieur, avec des stades qui sont majoritairement verts, avec des parkages qui sont blindés et on n'entend que, par hasard, ça aussi c'est hors norme, et même en tant que spectateur ou téléspectateur, c'est quelque chose qui réchauffe le cœur, et c'est quelque chose, on le sait, ils le disent, et je suis persuadé que c'est vrai, qui fait du bien aux joueurs.
Et moi, ça, effectivement, je veux m'y attarder parce que ça me paraît exceptionnel. On vit un truc, en tout cas moi, j'ai l'impression que je ne l'ai jamais vécu à Saint-Étienne. Cinquième match consécutif à guichet fermé contre Odez. J'ai jamais connu ça. J'ai regardé cet après-midi parce que je trouvais ça intéressant de faire la comparaison. Nos deux dernières montées, la montée de l'équipe du Nouz en 99. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on fait une très belle saison. Et en gros, à 8 journées de la fin, on est quasi sûr de monter. Donc, en fin de saison, on a un peu traîné en route en faisant des nuls, des défaites. Mais le match on joue un match en mars contre Lille, qui est le match, si on le gagne, qui nous permet d'être sûr de monter. On le gagne 3-2. C'était le match après la victoire au Red Star au Stade de France. On gagne ce match contre Lille 3-2. J'ai regardé, il y avait 25 800 personnes. Donc, en gros, 10 000 de moins que sur tous les matchs qu'on vient de voir. Et pareil, en 2004, l'année d'Antonetti, avant le match contre Châteauroux, où le stade est plein et à guichet fermé, le match précédent, la 36e journée, on joue Guignon devant 28 000 personnes. Donc, l'engouement du moment, il est supérieur à tout ce qu'on a pu vivre dans notre histoire jusqu'à présent. Quoi. C'est fou. Et alors, comme tu le dis, c'est aussi le cas à l'extérieur. Moi, j'ai une petite anecdote. Là, j'ai vu le match avec le mec de l'équipe que je connais depuis mon bouquin, qui est un fan des Verts et qui, quand il descend, me fait signe. Et le match contre Caen, pardon. Et il m'a dit, on buvait une bière après le match, il m'a dit, mais moi, j'ai déjà pris ma place pour aller à Rouen, les supporter contre QRM. Donc, on en est quand même à anticiper 15 jours, 3 semaines avant, la réservation d'un billet pour un déplacement dans un stade Rouen. Je ne sais pas si vous voyez Robert Diochon, mais on n'y va pas pour le confort du stade, dans ce stade. Donc, il se passe des trucs. Et en plus, là, je parle d'un type qui va voir des beaux matchs, il en a vu, et pas qu'en France. Et donc, voilà ce qui se passe. Et ça, c'est synthé, quoi. Et c'est fabuleux, effectivement. Et on en reprend pour 20 ans, là, de passion immodérée pour ce club, avec ce qui est en train de se passer. Donc, oui. Ça fait un bien fou.
Ouais. Alors, j'ai juste un petit doute. Alors, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu as dit. J'ai juste un petit doute. Je ne suis pas sûr que QRM joue à Robert Diochon.
Si, si, il joue à Robert Diochon. Hein.
T'es sûr?
Ah,
ouais, parce que c'était le stade du FC Rouen avant. Et, ouais, je croyais qu'il jouait à Petit Quevilly, un truc comme ça.
Tu regarderas leur tribune. Il y a une tribune latérale qui doit être celle face aux caméras. Quand il n'y a pas de public, tu vois bien marqué FC Rouen. Comme nous, il y a
d'accord.
Marqué
à Saint-Étienne. D'accord, ok. Je pensais que c'était dans un autre stade. Très bien. De toute façon, cette anecdote que tu donnes, je crois que c'est pas du tout le seul à avoir anticipé ce genre de choses. Et je pense que toutes les places qu'il est possible de récupérer, les supporters des Verts vont les récupérer, et il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de déçus qui ne pourront pas aller à cette rencontre, j'en suis persuadé. Very well pour le forum et pour le chat YouTube.
Oui, tout à fait, parce qu'on a une contribution sur le forum avec Labuse, hein, qui nous dit que mon conduit lui rappelle Pascal Françoise. Alors, je ne sais pas trop quoi faire de cette information, peut-être.
Ah, c'est intéressant, c'est une superbe remarque de Mastre, à cheveux gris. Et je suis plutôt…
Plus de taquet quand même, Françoise.
Pardon ?
Il mettait plus de taquet dans mon souvenir, Pascal Françoise.
Moi, je dirais que mon conduit est peut-être un peu meilleur techniquement, mais est-ce que j'ai suffisamment de souvenirs de Pascal Françoise pour pouvoir l'affirmer? En tous les cas, c'est une remarque intéressante, au moins sur le plan du poste et du rôle dans l'équipe, on peut donner raison à la buse.
Puis on n'avait jamais parlé de Pascal Françoise dans cette émission, quand même.
Non, c'est vrai, c'est une première, je crois. Et il y a Denis sur le chat YouTube, là, qui, c'était un moment qu'il a posté ça, il nous dit que la révolution, en fait, qui a eu lieu dans le jeu et dans l'équipe de la SSE, a une cause, et c'est Olivier Dalloglio. Lui, il lui en donne tout le mérite, et je pense qu'il n'a pas forcément tort sur ce coup-là.
Bah, en tous les cas, ça ne peut pas être le hasard. Enfin, je veux dire, il a forcément joué un rôle. On sait que coacher une équipe, c'est compliqué. On sait qu'un coach a un rôle décisif. Donc, je pense qu'il est difficile de penser que Olivier Dalloglio n'a pas eu un rôle majeur dans ce qui se passe en ce moment. Souhaitons qu'il continue à trouver les bons arguments, les bons leviers pour permettre à l'équipe d'atteindre le Graal, la montée, et hop là, superbe transition pour la dernière partie, troisième partie, les perspectives de montée. Alors, on va d'abord parler du calendrier dissident avec toi. Si on compare ce qui nous intéresse le plus, Auxerre ayant gagné, j'ai oublié où ils ont gagné, Auxerre, ils étaient menés 1-0, là.
À Dunkerque.
Ils ont gagné 3-1, donc Auxerre a 4 points d'avance, on va dire qu'on ne s'occupe plus d'eux. Nous, on se déplace à Guingamp, on reçoit Rodez, très en forme, on va à QRM. Quant à Angers reçoit Pau, Angers se déplace à Annecy et Angers reçoit Dunkerque. Dissident, même si c'est difficile de faire des pronostics, même si c'est un peu du football fiction, est-ce que tu tires quand même des enseignements de ce calendrier que j'ai envie de qualifier de plus difficile pour nous que pour Angers? Est-ce que ça a un sens? Je ne sais pas. Je voudrais ton sentiment sur la question.
Pour moi, ça n'a pas tellement de sens parce que cette Ligue 2 est tellement difficile à lire en fait que de semaine en semaine, il n'y a pas de marge en fait dans cette division. C'est-à-dire que n'importe qui peut battre n'importe qui. Ça, c'est un peu des poncifs que j'utilise, mais c'est un peu vrai. Angers troisième aujourd'hui, mais ils ne sont pas extrêmement supérieurs à Pau, par exemple, qui vont rencontrer ce week-end. Nous, on a vu tous les matchs, on en a discuté là pendant cette émission, des derniers matchs qu'on a gagnés à l'arraché contre des équipes de milieu de tableau comme Grenoble ou Bordeaux. Bref, c'est difficile. La seule chose que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on a 2 points d'avance sur Angers. Et qu'il reste 3 matchs, et que donc c'est un avantage pas décisif, mais important, et que bien évidemment, aujourd'hui, il vaut mieux être à notre place qu'à la leur. Et pour le reste, bah, ça va jouer au mental, ça va jouer dans la tête. Et là-dessus, on a quand même montré qu'on avait des qualités. La dernière chose que je voulais dire, c'est rappeler qu'on a la meilleure défense de Ligue 2. Et que pour moi, c'est quelque chose d'hyper important, surtout dans un sprint final. On sait qu'on a une base défensive hyper solide et que ça va nous donner de la confiance pour entamer ces 3 derniers matchs. Parce qu'on sait très bien que si on arrive à ouvrir le score, ben, qu'après, ça va être difficile pour les adversaires. On a vu comment Caen s'est cassé les dents sur notre défense. Donc ça doit vraiment être pour nous un point important sur lequel il faut s'appuyer, une qualité qu'a pas forcément Angers, qui est une équipe qui encaisse quand même pas mal de buts. Donc voilà, il y a quand même des signaux positifs.
Alors, Caen qui s'est cassé les dents sur notre défense et sur Gauthier Larsonneur, qui pourtant n'est pas meilleur que Mathieu Dreyer, d'après des sources mal informées. Alors, Cette fin de saison avec ce championnat de Ligue 2 qui effectivement est difficilement lisible. Pat, si je dis que notre principal, alors on a les 2 points d'avance évidemment, mais notre principal atout, c'est que Angers, ça fait un petit moment qu'ils sont pas très bons quand même, et que par exemple ils ont gagné à Guingamp, c'est Guingamp qui donne les 2 buts, hein, pas de bol pour nous, mais le reste du temps c'est pas bien terrible ce qu'ils font. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que Angers, ce n'est pas un concurrent qui est plutôt en ce moment moins bon que nous?
Moins bon, je suis pas sûr en fait. Ça reste quand même une équipe qui a montré des qualités aussi pour venir prendre des points dernièrement quand on a commencé à leur faire sentir qu'on était juste derrière eux, à leur envoyer nos bouffées d'air juste derrière. Ils ont quand même montré des qualités pour réagir et gagner des points importants. Bah, tu parles de ce match à Guingamp, ça en est un bon exemple. Il y en a aussi d'autres aussi en amont. C'est plus avant en fait qu'ils ont connu leur gros trou d'air où ils ont perdu beaucoup de points clairement ils ont mangé, on va dire, la feuille et l'avance qu'ils avaient sur nous. On avait, je crois, 14 points de retard sur eux. Mais depuis 4-5 matchs, même si c'est dur pour eux aussi, hein, on a l'impression, de toute façon, je dis c'est pour eux, mais c'est dur pour tout le monde. Ce sont toutes les équipes cravaches pour essayer de gagner et tirent la langue. On voit que physiquement, c'est très compliqué pour beaucoup d'équipes. Pour ça, moi, je ne suis pas certain qu'ils soient moins bons que nous. On va dire que ça se joue vraiment à trois fois rien. À chaque fois que nous on prenne des points sur, comme on l'a dit, c'est déjà sur cette semaine à trois matchs, qu'on prenne 9 points dans les circonstances où on les a prises avec les matchs à l'arraché, comme l'a dit Dissident juste avant, qu'on a pu faire. La différence entre les deux équipes, elle est très très mince. Pour ça que ces 2 points d'avance, c'est un vrai avantage. Pour nous, mais plus que ces 2 points d'avance, il faudra au moins espérer en prendre 7. Et je pense vraiment qu'il faudra en prendre 7 pour aller finir à cette deuxième place. Je ne vois pas Angers lâcher 2 points sur ces 3 derniers matchs, parce que justement leur défaite à Paris a montré qu'ils peuvent, contre des grosses équipes, ils peuvent avoir du mal, mais ça leur a aussi mis, je pense, un coup pour se dire bon, les mecs, il faut y aller là maintenant aussi. Je pense qu'ils vont finir fort. Il faut que nous finissions fort également. Et je pense qu'on va avoir un deuxième de Ligue 2 cette saison qui va avoir un nombre de points vraiment très élevé comparé à ce qui a pu se faire dans le passé. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas baisser la garde parce qu'on a 2 points d'avance.
Alors, voilà une analyse claire. Pat qui voit Angers marquer 9 points. Alors, moi, pas du tout. Moi, je les sens plus fragiles que ça. J'ai totalement conscience que c'est possible qu'ils gagnent leurs 3 matchs. Mais moi, je ne pense pas que ce soit le plus probable. Alors, on arrive quand même plus ou moins au terme de l'émission, hein, puisqu'on a dépassé l'heure d'émission. Le dernier point, bah, on se le garde sous le coude pour la prochaine fois. Mais on ne va pas se quitter avant de faire plaisir à Cédric 26 qui nous a demandé de faire des petits pronostics sur le nombre de points qu'on va marquer d'ici la fin de saison et pour Angers également. Pat, tu viens de dire que tu voyais Angers en marquer 9. Nous, tu nous vois en marquer combien sur les 3 derniers matchs?
Eh ben, j'en espère 7.
Allez, voilà, premier pronostic voilà. Pour Pat, 7 pour nous, 9 pour Angers. Et ça se joue à la différence de but, si c'est ça. Elle est favorable pour les Verts actuellement. Mais imaginons qu'Angers fasse 3 grosses victoires, il pourrait nous repasser devant. Par hasard, comment tu vois la fin de saison en termes de nombre de points?
J'en sais rien.
J'en sais rien, mais je suis juste de ton avis sur la possibilité, voire la probabilité qu'Angers encaisse difficilement la défaite. J'ai l'impression qu'elle leur a mis un coup au moral, au-delà du fait que ça montre qu'ils sont plus fragiles que nous. Il y a 2 choses, en fait, qui les pénalisent dans ce sprint. C'est qu'ils sont moins solides défensivement que nous. Ils ont plus de trous d'air quand même. À Concarneau, ils étaient menés 2-0 à la mi-temps. À Guingamp, ils prennent encore un but. À Paris, ils en prennent 3. Et puis, ils ont une dynamique, enfin, en termes de confiance. Se dire qu'ils ont eu 14 points d'avance et que maintenant, ils sont 2 points derrière nous. Et puis, se dire qu'on lâche rien et qu'on n'arrête pas de gagner. Peut-être que certains, dans leur tête, se disent « Bon, bah, de toute façon, c'est mort. Ils nous sont passés devant. On n'y arrivera plus. » Donc, ça me laisse un peu optimiste. Allez, je dirais quand même, je pense qu'on ne fera pas le plein. J'hésite entre 7 et 5 points nous concernant, parce que je nous verrais bien éventuellement faire 2 nuls sur les deux prochains matchs et gagner à QRM. On va dire 7 pour être optimiste. Mais bon, peut-être qu'on n'en marquera que 5. Mais si c'est le cas, je pense quand même que ça sera suffisant. Voilà. Mais je dirais 7 plutôt que 5.
Et pour Angers ?
Et pour Angers, alors là, ça va vraiment dépendre de mon avis de ce week-end, parce que si on creuse l'écart ce week-end, ils vont vraiment s'écrouler. Pour Angers, allez, je suis sympa avec eux, je leur en donne 6. Je ne les vois pas trop gagner à Annecy. Je pense qu'entre Pau et Annecy, il y a deux matchs où ils vont laisser les plumes. Donc, je dirais 6. 7 pour nous, 6 pour eux, ou 5 pour nous, 6 pour eux. Dans les deux cas, ça passe.
Ok. Verivel, à ton tour.
Alors, moi, je suis un peu moins optimiste que vous pour Saint-Étienne, mais je ne le suis pas non plus pour Angers. Donc, finalement, ça passerait. Moi, je pense que chaque équipe va prendre 4 points d'ici la fin du championnat.
Ah moi, je suis un peu sur la même ligne que toi, Verivel. C'est ce que j'avais en tête, mais je vais me démarquer légèrement en disant 4 points pour nous et 3 points pour Angers.
D'accord.
Voilà. Tout cela est fixé sur la bande qui n'existe plus maintenant, mais on pourra voir. Alors ça, c'est du football fiction. Hein, je suis pas sûr que la moindre expertise compte dans ce genre de pronostic, mais tout est possible, tout est ouvert. Dissident l'a dit tout à l'heure. Tout le monde peut battre tout le monde. Alors c'est peut-être un lieu commun, mais c'est l'exacte vérité dans ce championnat. Il n'y a qu'à voir la victoire de Valenciennes, par exemple, qui était déjà condamnée et ça ne les a pas empêchés de gagner un match pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps.
Je suis amnésique, soit tu as oublié de demander à Dissident son avis, son pronostic.
Ouais, ouais.
Ah bon ?
Oui, c'est vrai.
Oh là, oh là là ! Bah, Dissident, toutes mes confuses.
Alors, écoute-moi,
en plus, on n'est même pas en période de tournoi, donc on ne peut pas m'accuser de ouais. faire de l'anti.
Oui, c'est
le anti 15 de la rose primaire. Alors, vas-y, on t'écoute.
Bah, écoute, moi, je vais faire l'effort pour faire plaisir à Cédric, parce que c'est vraiment pas un exercice que j'aime où je suis très fort. Mais je vais dire qu'on va prendre 6 points pour terminer au joli score de 69 points. Pendant que de son côté Angers on marquera que 6 aussi et donc on sera devant. Voilà.
Bon, alors c'est-à-dire que ici tout le monde fait un pronostic qui nous fait monter en Ligue 1. C'est limite inquiétant. alors,
c'est pas
c'est limite inquiétant. Bon. Alors, on va quand même espérer, même si on n'a pas répondu à la dernière question, monter en Ligue 1, d'accord, mais pourquoi faire ? On va se garder ça pour une prochaine émission parce que c'est une vraie, vraie question. On va espérer quand même que cette tendance se vérifie et qu'on retrouve une division que, en toute logique, nous n'aurions jamais dû quitter. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci de l'avoir écouté, que ce soit en direct ou en podcast. Merci à combien vous étiez aujourd'hui, 1, 2, 3, 4. Merci à tous les quatre d'avoir animé cette émission avec moi. On vous donne rendez-vous probablement à la fin du championnat. Je ne pense pas qu'on fera d'émission avant. On verra de toute façon. On vous tient au courant sur le site comme d'habitude.